Et pour cet épisode de Totémique, nous sommes en studio, solution plus simple pour Aurel San dans un emploi du temps rempli à ras-bord, mais en studio, comme dehors, le rituel elle-même, on teste le son et on ajuste le micro à bonne distance. Alors, une échappée avec Aurel San, c'est parti.
Allez, salut tout le monde, ça va, vous allez bien? Oh, ça vous plaît ce bruit? C'est pas mal. Ok, ASMR. Je pense qu'il faut commencer comme ça l'émission.
Bah c'est comme ça qu'on va commencer. En
fait. Et voilà. J'y touche plus après.
C'est l'histoire d'un gars qui publie son premier album à l'âge de 27 ans. Ça s'intitulait « Perdu d'avance ». Évidemment, c'était contre-intuitif. 5 albums plus tard, Aurel San est devenu superstar avec des morceaux qui balisent l'époque et des expressions passées dans nos conversations. Simples, basiques. L'observation comique d'un repas avec cousine et vieux tonton, dans un morceau comme « Défaite de famille ». Le récit en plan séquence au cœur d'une manif des années 2020, avec un texte intitulé « Manifeste ». Aujourd'hui même, Aurel San publie un nouvel album. « La fuite en avant », c'est le titre. Dans le même temps, il tient le premier rôle du film « Yoroi », dont il a aussi coécrit le scénario. Dans ce disque, comme dans ce film, il y a la figure du anti-héros. Un anti-héros qui s'en sort avec humour, talent et les potes, toujours les mêmes, qui l'entourent depuis le début, comme Ablaï ou Scred, qui co-compose et produit ses morceaux. Aurel San est arrivé en studio avec la marque de l'oreiller derrière la tête. Quelqu'un a dit « Passe la main dans tes cheveux ». Il s'est marré et a tutoyé tout de suite.
Totémique, Rebecca Manzoni, sur France Inter.
J'ai du mal à... Vous voyez, je suis un enfant.
C'est vrai, à 43 ans, on est encore un enfant ?
Sur le vouvoiement, ouais. Il y a des trucs qui restent.
Et ça va, la marque de l'oreiller, on ne se voit plus trop, là ?
Je crois que ça va. Je crois que le casque aplatit mes cheveux, je crois.
Comment il a évolué, le personnage d'Aurel San, depuis 2009 ? Ce serait quoi les grandes étapes de sa mutation ?
C'est dur à décrire, mais en fait, chaque album est un petit bout de mutation, quoi. C'est comme ça que je vois... Que je vois mes projets, c'est pour ça que j'essaye d'en sortir pas trop fréquemment, que j'essaie d'avoir un rythme quand même, mais et à chaque fois j'ai envie de faire quelque chose qui correspond à mon âge. Et après c'est même pas trop une question d'âge, c'est plus correspondre aussi à l'époque, au mood dans lequel je suis. Il y a eu Perdu d'avance, qui était un mec qui sait pas où il en est, il cherche, il fait
j'ai la flemme d'enregistrer.
Il raconte
Ça enregistre là aussi
toute son adolescence.
Ah, ok. Je crois que je suis perdu, je crois que j'avance dans le mauvais sens. Ouais. Bientôt 26 ans, en pleine crise d'adolescence. Le concept c'est dans ma vie, je fais des trucs débiles. Comme ça je peux rapper, en parler, ramasser des billes.
Il y a eu le chant des sirènes où c'était un peu un autre statut, la tentation, l'addiction.
Déchiré dans une boîte parisienne pour la 4e fois de la semaine. Et c'est même pas le week-end. Tous mes nouveaux amis sont proches du star system. Tous mes vieux potes subissent la merde de la vie quotidienne.
Il y a eu la période casseur-flotteur avec le film où c'était on essaie d'être des éternels ados et on est plus dans l'humour et on a ce côté un peu loufoque, très live quoi.
J'ai raté mon bus alors je cours à côté. 10 secondes après j'ai déjà des points de côté. Les cervicales bloquées, t'as dormi sur le côté. T'as misé tes thunes sur le cheval le moins côté 1, j'ai tendance à bloquer. J'ai tendance à bloquer.
On a eu ensuite la période « La fête est finie » qui est un peu je passe à autre chose, il faut se remettre en question, Et j'essaie de faire des albums avec la musique.
Ok. Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Dire j'ai pas de matos ou pas de contact, c'est un truc de victime. On dira d'être premier, jamais d'être heureux. Premier, c'est pour ceux qui ont besoin d'une note, qui ont pas confiance en eux. T'es au moment de ta vie où tu peux devenir ce que tu veux. Le même moment où c'est le plus dur de savoir ce que tu veux.
Après, il y a eu Civilisation, qui était un peu sortir de moi, réflexion sur la société, on sortait du Covid. C'était un album moins centré sur moi, avec des chansons plus musicales aussi, qui, comme Jour meilleur, ou La quête, ou L'odeur de l'essence, qui était un album... il y avait vraiment du corps, j'avais envie de raconter des choses, quoi.
Tout est réel, tout est systémique. Dès qu'un connard fait quelque chose de mal, quelque part, le monde entier devient susceptible. Les coupables sont d'anciennes victimes. Le cercle du mal jamais fini. Tout dégénère, tout est cyclique. Pas de solution, que des critiques. Tout le monde est sensible, tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive.
Et là, pour moi, il y a La Fuite en Avant qui est album plus, très perso.
Voilà, plus il y a moins de titres justement par rapport à Civilisation qui parle de l'état du monde.
C'est ça, et il est plus personnel, il est plus sur réfléchir à ses angoisses, ses peurs, réfléchir à
ses démons intérieurs.
À ses démons intérieurs.
Parce que c'est quand même le thème du disque.
Exactement, à comment on gère ses sentiments, à aussi le rapport au couple, le rapport, il est plus micro que macro quoi.
Et ce nouvel album commence comme ça.
Tu iras nulle part, t'es fini, t'es nul, t'es éclaté au sol. T'es plus le même, t'as perdu le truc, tu te la racontes, tu fais moi. Tu n'es avec le bois, prends pour qu'elle s'en va, t'es qu'un bois, t'as pas de vie, t'as jamais rien fait, t'as une mère, t'as pas de vie.
Ce morceau qui ouvre le disque s'intitule Le Pacte.
Tu l'as voulu, tu l'as eu, maintenant assume. Tu l'as voulu, tu l'as eu, maintenant assume. Tu l'as voulu, tu l'as eu. Tu l'as voulu, tu l'as eu, maintenant assume. Tu l'as voulu, tu l'as eu, maintenant assume. Tu l'as voulu, tu l'as eu. La presse, les couvertures, quand t'arrêtes dans la rue, les photos dégueulasses à ton insu. Le mec agressif qui sort son téléphone et t'insulte. Le tribunal des pauvres qui ont aucune preuve et qui te juge. T'as voulu faire le show, donc te plains pas quand ça brûle. Y'a plus de demi-mesures, t'es un génie ou t'es nul. On te donne des convictions que t'as jamais eues. Et si t'agis pas comme ils s'imaginent, ils sont déçus. Tu l'as voulu, tu l'as eu. T'as pris une part de toi, tu l'as vendu, t'écris, tu te mets à nu. Donc en gros, t'es leur pute. T'as voulu tes parents qui t'harcèlent pour faire de la pub. Pour que le chauffagiste fasse une réduc. Tu l'as voulu, tu l'as eu. La haine sur les réseaux, on s'habitue. De temps en temps, t'en manges quand même une. Avec un fond de vérité qui t'envoie dans le dur. Tu te mets à déprimer, c'est ta conscience qui te torture. Tu l'as voulu, tu l'as eu.
Comment est né un texte comme Le Pacte?
Ah, Le Pacte, en fait, c'est l'intro de l'album. Il a failli s'appeler Le Revers de la Médaille. Donc quand j'hésitais entre les deux, finalement j'ai appelé Le Pacte parce que je trouvais que c'était un peu plus en rapport avec Tu l'as voulu, tu l'as eu, qui est le gimmick qui revient souvent. Mais grosso modo, le revers de la médaille, c'est donc tous les côtés négatifs. Bah moi je parle de mon expérience, donc c'est de la surexposition, de la célébrité, de toucher ses rêves, tout ça. Et ça, c'est le genre de morceau justement que je voulais pas faire sur Civilisation. Et que je voulais pas faire avant, même parce que bah il y avait ce côté se plaindre de la fame que je trouve chiant, que je trouve snob et que je trouve je sais pas comment dire un peu trop qui parle pas aux gens. Et au final je me suis dit bon, je vais quand même l'écrire. En plus, tu sais, je prends des notes et donc du coup j'avais énormément de notes qui parlaient de ça en fait, parce qu'au final c'est quelque chose que je connais bien et que je vois aussi chez d'autres artistes. Je raconte des trucs qui partent de moi, mais aussi des fois qui je m'inspire des autres aussi, tu vois. Et donc, je me suis dit, allez, je l'écris. Et je trouve ce qui a fait basculer un peu le morceau dans un truc où, qui a commencé à me plaire, c'est le « tu l'as voulu, tu l'as eu ». Parce que je trouvais que...
Tu l'as voulu, tu l'as eu, maintenant...
Maintenant, assume. Oui, c'est ça. Parce que je trouve que ça fait poser plein de questions. Et puis je trouve que, du coup, c'est vrai qu'à un moment, tu l'as voulu, mais est-ce que c'est pour ça qu'il faut que t'assumes ? Et c'est vrai que ça montre aussi la culpabilité qui peut naître de ça, qui rajoute une couche en plus de galère, tu vois. Donc, du coup... Et en fait, moi, je sais pas quand je fais les morceaux. C'est-à-dire, j'ai fait écouter à Scred, à Bly, à Faz, à mon frère, à tout le monde. Et tout le monde disait, ah, il est pas mal et tout. Après, Scred, il a retouché l'instru. L'instru était pas exactement comme ça. Et là, on s'est dit, putain, c'est cool, tu vois. Et je voyais que les gens adhéraient au morceau, alors que je pensais que ça allait pas leur parler, quoi. Au contraire, à la limite, je me disais, mais jamais je commence un album comme ça. Et au final, ça s'est imposé.
Mais c'est presque devenu un thème à part entière.
Ouais, carrément.
Dans le rap en général, même.
Ouais, oui, bah, exactement. Drake, il parle que de ça, par exemple.
Et puis, il y a des rappeurs français aussi.
Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est complètement un morceau, peut-être même un morceau sur deux. Parce que le rap, en fait, c'est quand même une musique où tu t'inspires vachement de ce que tu vis. Et donc, à partir du moment où t'as du succès, tu vis ça. Donc t'en parles, quoi.
La chanson française, est-ce qu'elle a une influence ?
Ouais, complètement. La chanson que mes parents écoutaient, ça a une influence dans, je pense, ma façon de chanter les refrains et de composer mes mélodies, quoi. Même forcément dans les paroles.
Alors les références, ce serait quoi, par exemple ?
Bah moi, quand j'étais petit, c'était Michel Berger, Balavoine. C'était les trucs que mes parents ils écoutaient dans la bagnole, quoi. France Gall aussi beaucoup. Ma mère elle adorait France Gall, on l'écoutait beaucoup dans la voiture. Mais c'est vrai que...
Je voulais vous faire écouter Hong Kong Star.
Ouais, exemple. J'aime trop.
C'est
tu n'es qu'une Hong Kong Star.
Mais ça, c'est aussi lié, je trouve, à la génération de rappeurs que vous incarnez.
Ouais,
parce que la première génération, donc celle qui est apparue au début des années 90, elle n'aurait jamais cité ouais. la référence de ce qu'on appelle la variété française, en fait.
C'est drôle. Ouais, je vois rap, je sais pas trop. C'est plus, par exemple, des gens que je connais un peu plus âgés, qui vont plus être très rock, underground, et pour qui, eux, ça s'était interdit.
Oui.
Et je me rappelle quand je suis arrivé au début et je parlais de Berger, France Gall ou même d'autres trucs, de Goldman en interview en disant ouais comme ce morceau et tout, et ils me regardaient un peu genre pour eux c'était un peu ouais le truc ouais un peu commercial alors que moi c'était mon enfance, tu vois les générations d'après ça va être, tu vas avoir des gens qui vont je sais pas dire moi j'écoutais Calogero, moi j'écoutais dans ce côté et puis ça avance. En fait, c'est des influences, mais comment dire, moi, j'avais pas d'album de Renaud, tu vois, c'est des trucs qui étaient présents. Que...
C'était plus la bande-son de la maison.
Oui, c'est ça. Après, quand même, en vrai, Renaud, il y a un truc, c'est que je retourne écouter ce qu'il a fait souvent, parce que je veux faire des morceaux, il a fait le même genre de thématique. Genre là, j'ai regardé qui a fait un morceau sur, par exemple, la grossesse. Il y a très peu de morceaux sur la grossesse c'est dans pas... la musique française.
Ouais, c'est pas un thème pop du tout.
Non, alors
et
que...
encore moins un thème de rap. Hein.
Ouais, alors que la naissance des enfants, il y en a plein. Mon enfant, mon truc, mais sur la grossesse vraiment, donc les 9 mois avant la naissance. Et Renaud, il en a fait une. Et ça, souvent, je me retrouve à re-aller voir des textes de Renaud. Et dans l'écriture, c'était ouf, quoi. Même les mélos, en vrai, Mistral gagnant, dans la simplicité, ça te touche direct. Le côté, je pense qu'on a ce point commun aussi, du côté, on n'est pas des chanteurs à voix, tu vois. Et donc, tu compenses un peu, mais qui crée aussi une émotion, tu vois.
Et l'un des thèmes de l'album, comme du film Yoroi, d'ailleurs, c'est la paternité.
Ouais.
En revanche, la façon dont c'est traité dans le disque,
ouais.
c'est celui de l'angoisse, quand même.
Ouais, un peu.
Un peu.
Il y a un morceau. En fait, je trouve un bon film, un bon album, c'est quand t'as une thématique et tu tournes autour. Donc forcément, tu vas avoir le côté angoisse. Et de toute façon, le côté angoisse crée plus de tension et d'enjeux que t'as pas d'angoisse, tout est réglé, tu vois. Un album entier de chansons où tout se passe bien, ça peut être cool, hein. Franchement, ça se trouve, je sais pas, des chansons de disco où toute la vie est belle, ils dansent et ils kiffent, tu vois. Mais du coup, je trouve qu'un morceau comme 2,5, il est à mi-chemin entre... le cocon un peu beau de la grossesse, cette période que tu vis, qui est quand même une période un peu, je vois un peu comme un cocon vaporeux où tu sais pas trop où t'es, et en même temps c'est confortable, et en même temps ta vie va changer.
Faut que j'apprenne à bricoler, faut que je prépare une belle chambre. D'ailleurs, y'a trop de trucs à faire et trop peu de mois restants. Où se trouve la liste de tout ce que fait un père avant la naissance? Je me sens trop adolescent, dans quelques mois tout va changer. D'ailleurs, tout a déjà changé. Ouais.
Donc ça, c'est pas exactement de l'angoisse. Et après, il y a une chanson de pure angoisse qui s'appelle Dans quelques mois.
Imagine, je le vois, je l'aime pas. Imagine, ça me fait rien, j'ai pas d'empathie. Imagine, je l'oublie, je rentre, je t'entends dire chérie, qu'est-ce que t'as fait du petit? C'est un cauchemar, je te jure, c'est sûr, on va le traumat. Tu l'enfermes dans sa chambre quand il a 230 ans plus tard, t'es un psychopathe.
Et après, à la fin, je reparle de ça, mais sous le prisme... plus positif, voir les choses du bon œil. Et ce qui est un truc un peu que j'ai vécu ces 3 émotions, quoi. Peut-être le côté angoisse dans ma vraie vie, il était peut-être un tout petit peu moins présent que dans l'album, peut-être j'ai... Mais c'est là, de toute façon, et puis même l'angoisse d'être père, c'est un truc que je vis depuis que j'ai 15 ans, tu vois, où t'y penses. Tout le monde se dit, si un jour j'ai des enfants, comment je vais les élever, quelle va être ma vie, est-ce que je suis responsable, est-ce que je suis cap, est-ce que c'est pas moi l'enfant déjà de dire quand même un truc, peut-être c'est moi aussi qui ai voulu rester un ado toute ma vie et du coup qui voulait pas déléguer ce rôle d'ado à quelqu'un d'autre, tu vois.
Il arrive bientôt, je serai jamais prêt, je vois même pas comment je vais savoir l'élever, je fais la liste des erreurs que je pourrais faire. J'ai purement et simplement peur d'être père. Dans quelques mois, dans quelques mois, dans quelques mois,
mais
dans quelques mois, dans quelques mois.
Après, c'est peut-être parce que j'ai eu un enfant, tu vois. Mais avant, tous les trucs d'enfant et tout, bah globalement... Et puis c'est normal, quand t'es ado, tu viens de sortir de l'enfance, t'as pas envie de... Mais avant, je trouvais ça cucu, et maintenant, ça m'émeut, tu vois. Dans la fin du film, on a fait une fin volontairement, un poil... C'est un peu naïf, c'est des bons sentiments. Mais en fait, maintenant, j'aime bien les bons sentiments. Et je... et je m'en fous qu'on trouve que c'est cucu, tu vois. Je me dis, non, c'est ça, moi, ça m'émeut. J'ai envie de toucher ce truc, je trouve ça beau. Allez vous faire foutre avec votre cynisme. Je veux juste cette beauté de l'émotion, tu vois. Un truc que, à l'époque, j'aurais pas pu accepter, peut-être parce que déjà, ça m'intéressait pas. Et puis, après, c'est forcément, dès que t'as un enfant, dès que je vois un enfant, ça m'émeut, tu vois.
Le nouvel album d'Orelsan fait exister plein de voix différentes, des voix qui s'opposent ou se contredisent, des voix intérieures comme des avatars, souvent démoniaques. Alors angoisse et ou bonheur de la paternité, oui, mais tentation pour d'autres choses aussi. La fuite en avant est le titre de l'album.
J'ai trop envie d'une voix de carré de poule.
Grave, j'ai trop envie d'une clope.
T'as beau arrêter de boire depuis longtemps, ça disparaît jamais vraiment.
Encore une fois, c'est le titre du morceau qui suit et qui réunit Orelsan plus Yamé.
Je me réveille à midi, la tête en vrac, la bouche en feu, l'impression d'avoir passé la nuit dans un cendrier. La première chose que je me dis, c'est plus jamais, la deuxième, c'est vivement 18h pour qu'on commence à les enquiller. Dans mon salon, y'a un mec que je connais vite fait, qui s'allume un truc d'une très mauvaise qualité. Donc je lui demande si je peux tirer. Je m'endors devant l'épisode, je me lève à 18h, donc j'y vais. Je suis la définition d'être en roue libre. C'est même plus des mauvaises habitudes, c'est la routine. La tease, les clopes, la weed, les potes, les joints. Je dis que j'arrête comme jeu, 4 ans plus tard, j'en suis toujours au même point. Les balcons, les terrasses, les bouteilles, les flasques. Y a toujours un mec défoncé qui m'a bizarre dans la glace. Nicotine sous angine, dans les poumons, dans les veines. Et je continue de répéter que ça m'aide à gérer mes problèmes. En gros, ça c'était moi avant. Normalement, maintenant, je suis pas là-dedans. Mais de temps en temps, le passé refait surface. Et j'entends cette voix qui me dit:
hello, comment ça va? Moi ça va pas. Je suis l'ancien toi, tu croyais que j'étais parti, mais je suis toujours là, là, là. La 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 la. Pourquoi tu me calcules pas? La 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 la. Encore une fois, on se revoit, toi et moi.
Un coup de stress, tu crames tout pour une puff. Je suis comme Sukuna, j'attends un faux pas. Le passé qu'on a, oublie-le si tu peux. Tu dis que c'était avant, arrête de mentir. Tapage et chant, non c'est juste le produit. Au lieu de rouler, tu scrolles à l'infini devant des vidéos de notre ancienne vie. Et quand ça marre, on la vit vire au gris. Le bonheur, le vrai, n'est pas dans les sourires. Regardez qui s'efface, on voit qui est qui. Même le boss final se fera kill.
Dès que je sors la tête de l'eau, il veut me faire replonger. Dès que je commence à m'enlever, il veut me faire retomber.
Tu veux pas vraiment les battre, tes démons.
Des fois y'a rien d'autre à faire que de couper les ponts.
Comment couper les ponts? T'as gardé le plug. T'as gardé une taille au cas où il pleut. Tu déprimes, c'est pas la qualité. J'suis pas ton ennemi, j'suis ta vérité.
En 2015, Orelsan écrivait et réalisait C'est encore loin, son premier film. Comment c'est loin, pardon, son premier film. L'histoire d'un gars gardien de nuit dans un hôtel de Caen, qui se rêve rappeur et qui procrastine. Et comme il veut se lancer avec un pote, il procrastine au carré. Pas vraiment une success story, à la fois juste et drôle. 10 ans plus tard, Orelsan a coécrit et joue le rôle principal de Yoroi en salle en ce moment. L'histoire d'un chanteur superstar qui s'appelle Orelsan remplit les stades et qui décide de s'enfuir au Japon. Et la superstar redevient anti-héros à la faveur d'une armure au pouvoir maléfique. Quand je lui ai demandé de choisir une voix, Orelsan a choisi un héros définitif, puisque c'est l'un des plus grands sportifs de tous les temps, comme on dit. C'est Michael Jordan qui a popularisé le basket dans le monde entier dans les années 80 et 90. Il y a 15 jours, Jordan a accordé une interview à la NBC, et aujourd'hui, Michael Jordan a 62 ans.
J'aimerais prendre une pilule magique, mettre un maillot, et retourner sur le terrain pour jouer au basket aujourd'hui. Ça, c'est ce que je suis. Ce type de compétition, c'est ce pourquoi je vis et ça me manque. Cet aspect du basket me manque. Être capable d'aller au-delà de ce que les gens considèrent comme du grand basketball.
C'est vachement triste comme extrait quand on sait à quel point Jordan est compétitif, quoi. Et lui, il a basé sa vie dans la compétition, ce qui n'est pas forcément un modèle pour moi, mais des fois, les modèles, c'est aussi pas faire ce que font les autres, tu vois. J'arrive pas trop à choisir des trucs comme ça. C'est comme quand on me dit quel est le seul album que tu gardes, ou quel est ton héros, ou j'arrive pas à en choisir un. En plus, moi, je me...
C'est de ma faute, hein.
Non, bah, c'est normal, mais c'est que ça. Hein. TikTok, c'est que ça, c'est que des tops de trucs. Moi, j'arrive pas à faire des tops. J'ai trop de périodes, tu vois.
Mais Jordan, c'est en aujourd'hui, fait en tout cas, c'était Michael Jordan.
Ouais, mais Jordan, c'est parce qu'il m'a trop influencé.
Basketteur
quand j'étais
mythique.
Petit, j'étais fan de basket. J'avais ses posters partout dans ma chambre parce que il était beau dans son jeu. Et aussi, il avait ce côté où genre, c'est impossible, il perd et il arrive, il revient et il re-sauve le match. Avec aussi une grosse, comment dire, une période où il a pris sa retraite et il est revenu et ils ont regagné, mais c'était dur. Je me rappelle même le jour où le père de Michael Jordan est mort. Je me rappelle de ce moment, tu vois, j'étais chez moi et je chialais, j'étais trop triste pour Jordan parce que j'avais appris que son père il s'était fait assassiner, tu vois. À quel point je me projetais dans Jordan, quoi.
Il y avait même identification.
Ouais, il y avait complètement une identification, quoi. Et après, c'est vrai que quand tu vois, par exemple, le documentaire des Bulls, ça, il a une addiction à la compétition, quoi, qui est pas quelque chose que j'ai envie d'avoir. Ça se trouve, je l'ai, mais je pense pas que je l'ai, mais qui est quelque chose où, là, c'est ça dont il parle, en gros.
Mais vous évoluez aussi dans un milieu hyper compétitif.
Ouais.
Vous êtes de la deuxième génération des rappeurs. Depuis, il y en a une troisième qui est arrivée.
Ouais, peut-être même une quatrième, je dirais.
Est-ce que ce côté hyper compétitif, ça vous titille, justement?
En fait, oui, je peux pas dire qu'il y a zéro part de compétitivité en moi, parce que il y a une voix dans ma tête qui me dit t'es encore là, tu peux le faire. Même naturellement, j'ai envie de le faire parce que j'ai commencé comme ça. En fait, le rap, c'est genre j'ai commencé en faisant des freestyles, des battles, des trucs où t'as envie de prouver que t'es là, tu vois. Et en même temps, je pense pas que ce soit ça ma force principale, tu vois. Je pense que j'arrive à faire des albums, que j'arrive à faire des concepts, que j'ai des morceaux aussi qui sont finalement hors rap, tu vois. Même si c'est pas ça, c'est venu comme ça. Donc des fois, vouloir faire la compète, c'est juste en fait une erreur et toi tu vas faire un sprint alors qu'en fait on t'a demandé d'être coach, je sais pas comment dire.
Je caricature, mais le personnage d'Orelsan s'est construit comme ça aussi.
Ouais, ouais,
le
je côté me suis un
peu
comme ça.
Le personnage un peu du gars un peu branleur.
Oui, c'est ça.
Jusqu'à Yoroi, où finalement c'est un gars qui a une armure avec des super pouvoirs et qui est un peu aussi un anti-héros.
Ouais, qui est complètement
anti-héros. Le personnage d'Orelsan, il est...
Je me construis un peu en marge du truc aussi, parce que c'est aussi... Je pense que pour amener des bons projets, c'est qu'il faut être particulier, tu vois. Mais je pense que, comme en fait, j'aime la musique, tu vois, le kiff dépasse la compète. Et donc, je vais me dire, ah bah, trop bien, il a fait un bon couplet, je trouve ça super. C'est trop bien que la musique se renouvelle. Et c'est trop bien qu'il y ait des trucs en opposition avec ce qu'il y avait avant, tu vois. Parce que c'est comme ça que ça se construit, que ça se déconstruit. Et je vais pas essayer d'aller être plus, comment dire... je sais pas, plus jeune qu'un jeune. À partir du moment où tu dis un jeune, déjà, c'est foutu. Mais je veux dire, après, quand même, je peux pas te cacher qu'il y a un petit côté en moi où si je vois un mec faire un bon couplet ou un bon truc, où je vais me dire, vas-y, ça me motive. Je me sens encore concerné, quoi. Mais après, il y a plein de nouveaux artistes où j'aime trop. Maintenant, il y a un niveau global qui est hyper haut. Et même pour le public, des fois, c'est dur de suivre et il y a des propositions dans tous les sens. Mais je trouve que l'enjeu maintenant, c'est de réussir à créer sa propre case. Comme par exemple Théodora, tu vois, elle a créé sa propre case. C'est dur de la mettre dans un style et c'est ça qui défonce. Et je trouve que les artistes souvent qui durent et qui me fascinent le plus, c'est ceux qui arrivent à faire ça.
Mais est-ce que vous vous imaginiez, quand vous étiez gosse et que vous projetiez sur scène, que vous projetiez chanteur, rappeur, musicien, est-ce que vous vous imaginiez que vous feriez du rap à 43 ans?
Non, non, bah non, pour moi, 43 ans, c'était extrêmement vieux à l'époque. Mais le monde a changé aussi. Parce que, en fait, nous, on avait l'image de nos tontons de 43 ans qui écoutaient, je caricature, mais genre qui écoutaient Michel Sardou et qui étaient.
Des fêtes
pas...
de famille, quoi.
Ouais, c'est ça. On avait cette image-là des gens de l'époque. Tandis que maintenant, les gens de 40, 50 ans, c'est Pharrell, je sais pas comment dire, qui a les cheveux blonds, qui est un leader de la mode. C'est, et puis je trouve que la culture, comment dire, un peu des jeunes, en fait, on a plus une culture globale maintenant. Parce que nous aussi, on a grandi avec Internet. Et donc, vu qu'Internet, c'est un truc un peu hybride qui bouge tout le temps, un peu mutant, et on arrive plus à s'adapter. Donc, j'arrive plus à me projeter. Mais à l'époque, jamais j'aurais imaginé. Je me rappelle, dans mon premier texte, je disais la honte, ces rappeurs qui ont passé la trentaine et qui continuent de rapper. Tu vois, je disais un truc comme ça dans mes premiers textes quand j'avais 17 ans. Donc, t'imagines maintenant. Loin.
Vous disiez l'importance d'Internet. Il y a un son qui s'intitule Internet sur le disque. Mais ce morceau, Internet, l'ambition, c'était quoi? C'était de se dire, je vais raconter en son ce que c'est qu'un scroll.
Ouais, exactement. C'est je chante Internet. Et c'est, c'est plus une interlude qu'un morceau.
Ouais.
Parce que ça dure 1 minute 30, un truc comme ça.
Développement personnel mytho. Un abruti interview un idiot. Complot avec la voix de Google. L'épisode s'est lancé tout seul. Gênant, bizarre, embarrassant. Un chimpanzé court après un serpent. Classement des meilleures ventes d'albums. Freestyle et tendance Skyrock. Quand parle, y a une pub qui pop. Ta maman fait des movie pop. Top 10, top 3, que des tops. Insère l'expression à la mode. Trouve trois feux rouges sur le captcha. Change de frein quand tu claques des doigts. Saute d'un toit sur un autre toit. Fight dans un parc municipal. Théorie sur la mort de Tupac. Pierniné toujours en tournage. Clique si t'as oublié ton mot de passe. T-shirt Nirvana d'occas. Consultant digital nomade. Tuto pour cuire une dorade. Spam, 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 spam. Scam, 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 scam. Highlight de Zidane. Full vidéo sur OnlyFans.
J'ai même pas essayé de faire des punchlines ni rien, c'est vraiment... Et quand j'ai essayé de faire des punchlines, ça marchait pas. Le brief, c'est... le brief, je veux dire, le concept...
On dirait un pro du marketing.
Ouais, c'est clair, c'est... À la base, on dit... Tu sais, c'est des trucs à la base, tu les dis pour rire et t'oublies que c'est une blague. Et genre, le concept du morceau, c'était vraiment dire les trucs les plus banals, quoi. Et donc...
Mais du coup, ça raconte un truc complètement absurde.
C'est ça. Et je trouve que quand tu mets tout... côte à côte, la Russie, et à côté, tu mets, je sais plus ce que je dis dans le morceau, mais tu parles de gens qui chantent, et tu parles d'un tuto pour cuire une dorade, et à côté, il y a Pierre Ninet qui est en tournage, et tout ça est mélangé dans la somme d'infos que t'as, et...
Mais ça raconte même les successions des stories sur Instagram, en fait.
Ouais, c'est ça, exactement.
Comme ça,
grosso modo, c'est un mec qui est en train de scroller et en même temps, il se dit, tiens, en fait, je vais acheter un truc, il va sur eBay et après, il revient et après, et c'est en fait nos vies. Je pense que c'est, on va dire, au moins 20% de nos vies, enfin peut-être pas 10% de nos vies, quoi.
Et quand on passe d'un contenu à un autre sur Internet, on tombe parfois sur de la musique. Le tube qu'Orelsan a choisi pour Totemic ce matin s'intitule Mrs. Jackson, un morceau signé Outkast, soit un duo de rappeurs d'Atlanta.
Mama, don't like me. She be doing things like having the boys come from her neighborhood to the studio trying to fight me. She need to get a piece of the American pie and take her bite out. That's my house. I disconnect the cable and turn the lights out. And let her know her grandchild is a baby and not a paycheck. Private school, daycare, shit, medical bills, I pay that. I love your mom and everything. See, I ain't the only one who lay down. She wanna rip you up and start a custody war. My lawyer, stay down. She never got a chance to hear my side of the story. We was divided. She had fish fries and cookouts for my child's birthday. I ain't invited. Despite it, I show her the utmost respect when I fall through. All you, you will defend that lady when I call you.
Là, on est... C'est le début des années 2000, je pense.
Ouais, je pense que ça doit être... j'arrive pas trop à savoir. Je pense que c'est 99 ou 2001.
Bon, on va dire au tournant du siècle, quoi.
Ouais, voilà, exactement.
Et ça correspond, ce serait la bande-son de quel moment de votre vie, ça, Outkast?
C'est ça, c'est la bande-son de quand j'ai 17, 18 ans. Vraiment, je l'écoute depuis... Depuis 30 ans, ce morceau, je l'écoute. Enfin, pas 30 ans, parce qu'il n'y a pas 30 ans, mais J'aime le fait qu'il y ait une caisse claire à l'envers, que la rythmique soit bizarre. J'aime le fait que les synthés derrière, ils soient hyper...
présents.
Hyper présents. André 3000, dans ce morceau, qui est genre un single, il rappe comme personne. C'est un de mes, enfin, c'est même pas que c'est un de mes rappeurs préférés, c'est qu'il est considéré comme un des meilleurs rappeurs de l'histoire. Il est toujours dans les top 10 de tout le monde, tu vois, du moins aux États-Unis. Et en plus, Outkast, il s'appelle Outkast, ils avaient cette image un peu décalée qui me touchait encore plus parce qu'ils allaient chercher des trucs particuliers.
Il y avait vachement d'humour aussi.
Ouais, il y avait de l'humour, ils cherchaient des films. Vestimentairement, ils étaient stylés. Ils avaient ce duo d'un mec plus street et d'un autre qui a commencé street et qui a fini en un espèce de troubadour qui fait de la flûte. qui me fait, je sais pas, et ce morceau, je trouve qu'il est intemporel dans le sens où c'est pas, il a pas un genre quoi, c'est pas du boom bap, c'est pas de la trap, c'est pas du,
ça fait partie des morceaux qui justement les a fait sortir de la case du rap pour s'ouvrir à complètement autre chose.
Oui, c'est ça. Et du coup,
à faire entrer plein d'autres influences en fait.
Ouais, exactement. Et en plus, c'est un morceau à thème qui parle des responsabilités de père. En gros, dans les paroles, il rassure la mère, il dit « Ouais, désolé, ça s'est mal passé ». En gros, ça parle de rupture et de divorce, tout en disant « T'inquiète pas, je serai là pour l'enfant, je vais l'aimer ». Tout ça dans un emballage avec le thème du mariage et tout, qui est juste fou. Rien que je t'en parle là, ça me met des frissons. Je me dis « Mais c'est... » Et pour moi, c'est un morceau parfait. Ce qui est drôle parce que je pense pour plein de gens, ils en ont rien à foutre de ce morceau, tu vois. Mais moi, j'aime ce morceau. Le clip était ouf. Il y avait un chat et il réparait un toit. Il y avait des averses. C'était une métaphore du mauvais temps qui arrive dans une maison. Et des fois, moi, les trucs métaphoriques vont plus me toucher que la vraie vie, limite. Donc, j'ai kiffé.
Dans l'émission, on écoutera un titre d'ACDC.
Ah ouais, trop marrant.
On écoutera Back in Black.
Ouais, bien sûr.
Et vous avez rappé sur Back in Black.
J'ai rappé à l'époque de MySpace où je rappais, où je sortais beaucoup plus de morceaux. Ouais, j'avais fait un freestyle où j'avais samplé Back in Black. Ouais. Ce que j'aimais bien, c'était un peu un hommage à ce que j'écoutais quand j'avais 12 ans. Ouais. Yeah. Oh.
25 ans, 14 d'âge mental. En concert, je vois ta main en l'air et ton accord parental. Augmente le volume, je viens faire péter la membrane. Je vais prendre vos thunes, vos filles, vos femmes et je remballe, je repars en tram. Je débarque de la campagne, en tequila, jean, vodka, petit. Je pourrais être ton père si j'avais pas mis de vodka, petit. Cherche mes sons comme Perceval cherche le Graal. Mon album, c'est une menace, le boîtier, c'est une tête de cheval.
Orelsan, Rebecca Manzoni. C'est Totémique sur France Inter. J'adore faire des voix de vraiment des voix de France Inter, quoi.
C'est vrai. Ce serait quoi une voix de France Inter?
Je sais pas, ça parle un peu comme ça. Orelsan, Rebecca Manzoni. C'est Totémique sur France Inter. J'ai l'impression que des fois, c'est des bouts de différents, une intonation par mot.
C'est de l'intelligence artificielle. En fait, on a commencé...
C'est de l'interprétation poétique de simples faits.
Et voici les faits. Le nouvel album d'Orelsan est disponible aujourd'hui même. Il s'intitule La fuite en avant. Il y invite d'autres artistes, comme Yamé, un groupe de K-pop qui s'appelle 5050, ou encore Thomas Bangalter, ex-Daft Punk. Ce nouveau disque, il compte 17 titres.
Ouais.
Ça veut dire écrire combien de textes?
Une centaine, je pense.
Une centaine?
Ouais. J'aime bien réécrire, en fait. Parce que sinon, je trouve sur l'album d'avant, je m'étais trop bloqué. Je voulais vraiment aller au fond de plein de sujets, de trucs. Et du coup, le process était plus difficile. Et là, j'ai plus fait des trucs instinctifs que je sors. Et si c'est bien, c'est bien. Si c'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas grave. Je recommence.
Donc, c'est réécrire dans quel sens?
Dans le sens, je peux prendre un exemple que je prends assez souvent, mais il y a un morceau qui s'appelle Boss dans l'album. Et en fait, l'intention de départ que j'avais, c'était de faire un morceau où je dis cette meuf est cool, un peu, en gros. Et j'imaginais, en fait, je voulais faire une chanson un peu où, genre, une meuf, une combattante peut jouer avant de monter sur le ring. Tu vois, souvent, avant de monter sur le ring, les combattants, ils ont des hymnes. Et je me suis dit, j'aimerais bien faire une hymne comme ça. Genre, imagine une combattante, elle monte sur le ring, elle joue ça. Donc, j'ai fait une première version qui était comme ça. Premier degré, c'est une battante, elle est cool, machin. C'était une version un peu rock. Et en fait, c'était pas naze. Mais je sais pas, je me disais, c'est bien, mais je sais pas, il y a pas... Ça manque de second degré. Ensuite, j'ai fait une autre version... où je parlais plus de la rencontre avec cette fille super. Ensuite, j'ai fait à peu près la même idée de départ, mais sur un autre tempo, avec plus de blagues, avec un autre angle. Et j'en ai fait, il me semble, 7 ou 8 comme ça. Et dans la 8e, il y a un moment où je disais, de toute façon, c'est pas moi le boss.
C'est pas moi le boss, c'est pas moi le boss, c'est pas moi le boss.
Et je répétais cette phrase. Et je me suis dit, en fait, c'est ça l'angle de mon morceau, tu vois. Et je me suis dit, en fait, ma chanson... ça va être un peu plus subtil que juste « Allez meuf, t'es cool ». Et du coup, voilà comment je peux faire 8 chansons pour au final en garder qu'une, quoi. C'est pas sur le même thème, en fait.
C'est pas moi le boss, dans mon couple c'est pas moi le boss. Décide de rien, c'est pas moi le boss. À la maison, c'est pas moi le boss. Je peux mentir à mes potes, mais c'est pas moi le boss. J'aimerais être un bonhomme, mais c'est pas moi le boss. Je peux mentir à moi-même, mais c'est pas moi le boss. Je peux faire le mal alpha, mais c'est pas moi le boss. Je peux donner mon avis, mais c'est pas moi le boss. Je peux payer les factures, mais c'est pas moi le boss. C'est pas moi le boss, c'est pas moi le boss. Je pourrais lutter, mais j'ai pas la force. C'est elle qui tranche quand on n'est pas d'accord. C'est ma chérie, c'est pas ma pote. Y a une hiérarchie, c'est pas moi le boss, c'est pas moi le boss.
J'imagine que l'instru influence le texte aussi.
Ouais, complètement. Des fois, tu vas faire un texte sur une instru, il est nul, tu sais pas pourquoi, c'est vraiment nul, et tu changes l'instru ou tu changes ta façon de chanter, et ça se trouve, c'est ton meilleur texte, et des fois, il y a zéro différence entre... Des fois, je fais même pas de modif entre un truc et un autre, et c'est bizarre. Et des fois, tu vas essayer d'écrire de manière un peu plus littéraire, qui va être objectivement mieux écrit, mais finalement... dans l'articulation, dans le choix des mots, ça va mal passer. Et au final, même si ta phrase sur le papier est mieux, elle est moins bien en musique. Et c'est ça qui est un peu un casse-tête. Et c'est pour ça que maintenant, je pose juste, je réfléchis pas. Je réfléchis quand même beaucoup, mais je veux dire, je me bloque pas. Avant, je m'empêchais un peu d'essayer. Avant, limite, au tout début où j'ai commencé, je rentrais pas en studio si je connaissais pas mon texte par cœur. Après, c'était une autre époque aussi, c'était un peu moins facile d'enregistrer. Mais si j'étais pas sûr à 100% de mon truc et que si la première fois que je le chantais, ça faisait pas boum, je le faisais pas. Maintenant, je pose des idées et je les rebosse, voilà. Oui, des fois, c'est bien dès le début aussi, et ça, c'est cool. Mais globalement, quand même, je dois faire... 7 chansons moyennes, dont 2 nulles, pour en faire une très bien. Enfin, que moi, je juge très bien. Après, peut-être les gens vont pas kiffer, mais moi, en tout cas, qui me satisfait, quoi.
Et est-ce que le fait de, d'avoir écrit un film en même temps, le fait d'écrire des dialogues comme ça, est-ce que ça influence aussi les textes?
Ouais, complètement. Pour moi, c'est quand même plus facile d'écrire des dialogues. Enfin, c'est de toute façon plus facile, je trouve, d'écrire des scènes. Je trouve ça moins compliqué qu'une chanson parce que t'as pas de question de rime avec des mélodies où t'as des syllabes limitées, avec des sonorités limitées. Donc c'est compliqué. Et donc le film, j'ai écrit un peu, je peux me poser, écrire des scènes, et puis pareil, j'en jette beaucoup, je recommence. Mais du coup, j'avais énormément de chutes, et donc ça m'a permis de trouver plus facilement des thématiques d'albums, et ça m'a permis aussi de prendre, j'avais des monologues entiers, qu'en fait j'ai transformé en chanson. La chanson de Tellement d'amis, c'est un monologue, d'ailleurs j'en ai gardé une partie, mais ce qu'on voit dans le film... C'est genre, je pense que c'est un monologue de peut-être une minute. Et ce que j'avais écrit, ça durait 4-5 minutes. Et donc, j'ai repris des idées. Et pour moi, c'est quand même plus facile de poser des trucs quand il y a un cadre, des personnages, une fiction. Ça m'aide grave, quoi. Et donc, et tout ça pour le ramener à moi après. Mais ouais, c'est hyper... j'aime bien.
Si on parle du son, il y a un feat avec Thomas Bangalter.
Ouais.
C'est aussi, d'ailleurs, il signe un morceau qui est le générique de fin du film.
Ouais.
Le premier album des Daft Punk, il est sorti en 97.
Ouais.
Donc, vous aviez quoi, 15 ans ?
J'avais 15 ans, ouais. C'est...
Vous les avez écoutés à ce moment-là ?
Oh ouais, bien sûr. C'est halluciné. J'adorais tout, mais je pense que c'est la base de... Comment dire ? De mon esthétique visuelle aussi. Parce que chez les Daft, ce que j'aimais bien aussi, c'était les clips. Et donc, c'est sûr que les clips de Gondry, les clips de Spike Jonze et tout, et même là encore, pour faire le film, on est encore en train de citer Gondry et Spike Jonze. J'étais archi fan. Et aussi de, je sais pas, le côté rare. En fait, il y a beaucoup de gens qui aiment les Daft, tu vois, parce qu'ils ont des morceaux incroyables que tu peux écouter sans fin et parce qu'ils arrivent à trouver pile cette boucle de musique qui fait que ça te procure des émotions. Mais moi, il y a même un truc où la façon dont les morceaux sont structurés, tu prends Harder, Better, Stronger, Faster, c'est genre... Harder, Better, Faster, Stronger... La façon dont le morceau est structuré qui fait que c'est toujours la même chose, mais c'est jamais la même chose. Et ça tourne autour d'une thématique où tu dis, voilà, on va faire ça, on va prendre ces quatre mots, on va les tourner comme ça. Et plus le morceau avance, plus ça tourne autour et plus tu changes les possibilités et le sens change. Et en même temps, ça représente exactement ce que veut dire le morceau. T'as vraiment l'impression de voir une société à l'action. Plus
Et de fait, quand on écoute et qu'il se passe un changement, ça devient un vrai événement.
Ouais, exactement. Et du coup, ça devient un événement. En plus, je parle même pas de Interstellar, qui était genre un film que...
Petite précision au passage, comme une note de bas de page, Interstellar est un film d'animation dont les Daft Punk ont co-écrit le scénario, la bande-son et celle de leur album intitulé Discovery, et le graphisme est signé d'un géant du manga, Leiji Matsumoto, qui fut notamment le père d'Albator totémique avec Orelsan. C'est reparti.
Tu vois, il y a des gens, ils rentrent chez eux, ils mettent les infos. Ben moi, je rentrais chez moi, pendant un moment, je mettais Interstellar. J'avais un vidéoprojecteur, je l'allumais, et il y avait Interstellar qui tournait en boucle chez moi, comme si c'était une espèce de bar lounge, tu vois. Mais... Non, c'est vraiment... Après, j'ai fait un feat avec Thomas Bangalter, j'ai pas fait un feat avec les Daft non plus, tu vois. Mais évidemment, quand on pense Thomas Bangalter,
on
pense les Daft. Et là où je suis trop content du titre, c'est que le brief, c'était faire un générique, tu vois, un générique de fin, quelque chose qui peut ressembler à de la musique d'animé, et en même temps qui s'écoute. Et Thomas, il est vachement intervenu, même dans l'écriture du morceau. C'est-à-dire, bah, comme je te disais tout à l'heure, j'ai fait une première version.
Assez... Dans l'écriture, dans le texte ?
Dans le texte, ouais.
Okay.
Et donc, j'ai fait écouter à Thomas et il m'a dit... Ouais, si, c'est bien, il y a une bonne base. Mais je pensais qu'on allait rester sur un truc plus positif. Il était assez dark, en fait, mon texte. Et il m'a dit, tu vois, les gens, on sort du cinéma et tout, j'ai envie qu'ils restent sur une note positive. Parce qu'en plus, à la base, c'est moi qui avais fait ce brief. Mais tu sais, des fois, t'écris et puis tu te laisses embarquer dans ton truc. Mmh. Et finalement, ça devient autre chose. Peut-être c'est parce qu'au début, j'avais pas trouvé exactement quoi raconter. Et donc, il y avait différentes parties comme ça. Et puis, il m'a dit, ah, tu vois, cette phrase-là, le monde, c'est ce que t'en fais, elle est bien. Peut-être tu pourrais la remettre au milieu. Peut-être là ton deuxième couplet. Et on avait des refs un peu genre trust antisocial, tu vois, ça nous est marré de...
Ouais, parce que c'est toute guitare dehors, ce morceau.
Ouais, toute guitare, toute batterie, un peu punk, tu vois. Et honnêtement, c'est même quasiment la première fois que quelqu'un me fait des retours aussi précis sur le texte, et il m'a fait réfléchir à... Et c'est hyper cool, vraiment, genre, ouais, ça... Après, tu fais comme tu veux, mais je vois plus ça, tu vois. Et tout ce qu'il disait, c'était hyper pertinent, hyper juste, et ça m'a aidé à structurer le morceau différemment, à faire le morceau qui correspond pile au générique. On avait vraiment aussi ce truc de tu sors du film, t'as envie
d'avoir...
Dans quel état d'esprit tu sors du cinéma? Et c'est, ouais, franchement, c'est une des rares personnes, peut-être avec Scred, mais qui m'a fait des retours sur les textes qui sont intéressants, enfin, que j'arrive à appliquer. Parce que souvent, on me fait des retours sur les textes, genre, un peu flou, genre, ouais, c'est pas mal, ouais. Je sais pas, je le sens pas. Tu sais, les trucs où tu dis, ouais, ok, mais je sais pas quoi faire de ton putain de retour, je sais pas comment l'intégrer. Donne-moi une solution. Et Thomas Pinkler, il a les solutions.
Dans la diversité des sons du disque, il y a ce morceau co-composé par Thomas Bangalter, donc toute guitare dehors, qui est quand même très rock.
Ouais.
Et puis, il y a de la K-pop.
Ouais, il y a de la K-pop.
Avec un girl band,
ouais,
qui s'appelle 50-50.
Qui s'appelle 50-50, ouais. D'où ça vient, déjà?
Oui.
Déjà,
parce que c'est quand même deux univers.
Ouais, parce que ça n'a rien à voir.
C'est deux galaxies différentes, quand
complètement.
Même.
Complètement. Après, la K-pop, il y a un truc où vraiment, ils ont le sens de l'efficacité ultime, ils ont le sens de on s'ennuie pas, les morceaux sont archi bien produits. Après, la K-pop, c'est vaste, hein, c'est comme si on disait le rap français, mais ouais. Globalement, on peut... ils ont un sens de la mélo, ils ont un truc de perfection dans les chorés, dans les clips sont ouf. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à rentrer dans la K-pop. En plus, j'ai une chaîne de télé sur ma télé, là, comme c'est une télé coréenne. Du coup, j'ai une chaîne qui s'appelle Studio Choom et qui est une chaîne de K-pop. Et à chaque fois que je tombe dessus, je bloque dessus, j'hallucine sur les structures des morceaux qui changent tout le temps, la qualité des chorés, le côté aussi un peu drôle de voir des groupes aussi, de gens aussi nombreux, tu vois, le stylisme. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à aimer la K-pop, tu vois. Et moi, j'aimais bien 50-50 parce qu'elle avait un titre qui avait explosé sur...
Cupid.
Oui, Cupid, qui était un son énorme et puis qui était archi cool. On a essayé de contacter des labels de K-pop et on a nous c'est passé par notre label, tu vois. Ils ont demandé, ils ont dit ouais, 50-50, ça les intéresserait de faire un morceau avec toi.
Et ils connaissaient Orelsan ou pas?
Je pense pas. Je pense qu'ils ont regardé, tu vois, et qu'ils ont dit ah, c'est cool et tout. C'est vachement différent, c'est des process qui n'ont rien à voir, c'est vachement. Bosser avec des top liners.
C'est une armée mexicaine.
Ouais, ouais, c'est bien.
C'est-à-dire qu'il y a toute une équipe pour écrire un morceau.
Ouais, c'est ça.
Ce qu'on appelle le hook, c'est-à-dire le truc qui fait entrer dans le morceau, le refrain. Enfin.
Après, nous, c'était nous l'équipe, du coup. Moi, j'avais fait mes parties. On avait fait la prod avec Faz et Scred. Et on leur a envoyé. Et eux, ils ont fait bosser des top liners qu'ils ont. C'est marrant parce que ouais, c'est hyper. T'envoies des mails, c'est hyper carré quoi. C'est cool.
Ça, c'est sûr que la K-pop, c'est l'usine à tube hyper carré.
Ouais, c'est ça. Et c'est drôle. Et le morceau, il est hyper dansant et tout. Il est fun quoi. Mais c'est vrai que c'est improbable comme collab quoi. Surtout qu'en fait, donc pour ceux qui connaissent pas, 50-50, elles sont 5. Du coup, il me reste même plus trop de place dans le morceau. Tu vois, je fais le refrain, je fais un bout de couplet, mais c'est comme ça que sont conçus les morceaux de K-pop aussi.
Vous êtes pas le boss.
Ouais, je suis pas le boss de ce morceau, quoi.
Je crois que je vais quitter ma wife. Ou je crois que je vais tout plaquer pour passer le reste de ma vie dans sa chambre. Ou dans ses yeux y'a de flammes. Pour une nuit je lui donne mon âme. Ou j'aimerais être son petit bouffon. Faire ce qu'elle veut quand éclate des watts. Ou je crois que j'ai plus toute ma tête.
Si vous m'aimez, aidez-moi. Je vais pas pouvoir le faire moi-même.
La toute dernière séquence de l'émission, c'est une séance photo.
Ouais.
Avec un Polaroid. On garde le casque sur le...
Comme tu préfères. Ouais, viens, on garde le casque, allez.
Allez, ok. Allez-y, prenez-la.
Hop.
On va attendre que ça se développe.
C'est ma pire photo, merci beaucoup.
C'est vrai ?
Non, ça va, ça va. Le Pola donne un côté un peu années 70.
Je pourrais le mettre sur les réseaux ou pas du tout ?
Ouais, bien sûr, bien sûr. Je suis vraiment plus à ça près. Des trucs horribles de moi. Des photos où je suis pas du tout à mon avantage.
Ah mais là, vous vous reconnaissez ou pas ?
Oui, oui, non, mais c'est complètement moi. Dans les années 80, certes, mais moi quand même.
Eh ben, merci beaucoup, Orelsan.
Merci, merci beaucoup. Merci à la... les gens derrière la vitre, merci beaucoup.
La fuite en avant, nouvel album d'Orelsan, est disponible depuis aujourd'hui, à minuit. Yoroi, film dont il est l'anti-héros, est dans les salles. Stéphane Le Guenec, réaliste totémique, et c'était avec Julien Thévenot ce matin. Perrine Malinge programme nos invités. Ilinka Negulesco et Célestine Babinet ont trouvé les sons et la documentation. Et JB Audibert prend soin de nos disques. La semaine prochaine, je vous emmène chez Cédric Clapiche. C'est pas facile à dire, je vous emmène chez Cédric Clapiche. Et ensuite suivront Jodie Foster et l'écrivaine Rebecca Warrior.